La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là en ce troisième jour de notre série consacrée jusqu'à demain à l'auteur entre autres du portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde. Oscar Wilde, à qui le Petit Palais à Paris consacre une exposition essentiellement biographique, mais dans laquelle on peut découvrir également des tableaux que Wilde a commenté en tant que critique d'art, et notamment le Saint-Sébastien de Guido Reni, que l'écrivain considérait comme son idéal de beauté. Car la beauté intéresse en particulier les dandys comme Oscar Wilde, comme nous l'a expliqué celui qui en est d'expert, Daniel Salvatore Schiffer, lors de notre première émission. C'était lundi dernier. Hier, Charles Danzig est revenu sur cette exposition du Petit Palais. Il nous a surtout raconté le martyre de l'écrivain, emprisonné, on le sait, pour homosexualité, dans une prison qu'il a brisée et où il n'était plus du tout question pour lui d'être à la hauteur de sa porcelaine bleue, pour reprendre son bon mot, mais simplement de tenter de survivre moralement. Il n'est pas sûr qu'il y soit parvenu. Enfin, demain, nous serons en compagnie d'Alain Jumeau qui parlera du théâtre de Wilde et de Pascal Aquien qui va lire et commenter des textes de l'écrivain en clôture de cette série. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une émission en deux parties. Après la chronique de Michel Crépu, je recevrai Anatole Tomczak qui vient de retraduire le portrait de Dorian Gray dans une version inconnue et non censurée, vous l'entendrez. Mais pour commencer, je reçois le théoricien de la littérature, historien et essayiste Tsvetan Todorov, qui a consacré à Wilde un long chapitre dans son livre « Les aventuriers de l'absolu ». Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Plus on étudie la vie et la littérature, plus on acquiert la conviction que derrière toute création merveilleuse se trouve la personne humaine, et que ce n'est pas l'époque qui fait l'homme, mais l'homme qui crée son époque. Une époque qui n'a pas de critique est soit une époque qui voit l'art immobile, stagné, devenir hiératique et se confiner à la reproduction de modèles canoniques, soit une époque qui ne connaît aucune forme d'art. Il y a eu de grandes époques de critique qui n'ont pas correspondu à des époques de création artistique, au sens courant de l'expression, des époques au cours desquelles l'esprit humain a cherché à mettre de l'ordre dans les trésors de ses collections, à séparer l'or de l'argent et l'argent du plomb, à faire l'inventaire de ses joyaux et à nommer ses perles. Mais il n'y a jamais eu de grandes époques de création artistique qui n'aient pas été aussi une grande époque critique. Car c'est la faculté critique qui invente les formes nouvelles. La création tend à se répéter. C'est à l'instinct critique que nous devons l'apparition de toutes les nouvelles écoles, tous les nouveaux moules dans lesquels l'art vient se couler. Mais la critique est sans conteste un art en soi. Et tout comme la création artistique implique l'exercice de la faculté critique, sans laquelle il serait d'ailleurs tout simplement impossible d'affirmer qu'elle existe, ainsi la critique est-elle vraiment créatrice au sens le plus noble du mot. La critique est, en fait, tout à la fois créatrice et indépendante.
Bonjour, Tsvetan Todorov.
Bonjour.
Vous êtes donc historien de la littérature, parlez des livres et votre profession, et j'imagine que vous ne pouvez qu'être d'accord avec ce que disait Oscar Wilde par la voix de Guillaume Gallienne dans cet extrait de son livre « Le critique comme artiste ». Quand il affirme que être critique, c'est être créateur.
Disons que c'est une vision assez positive de la critique, ce que Wilde a été, mais on peut lui faire confiance.
Vous-même, vous avez commencé votre carrière en étudiant les formalistes russes. C'était à Sofia, en Bulgarie, dans les années 50. Les formalistes russes qui touchaient exclusivement à la matérialité du texte, à ses formes linguistiques, et cela vous a permis, en vous occupant d'objets centenaires idéologiques, d'échapper à la censure du régime. Donc, il vous a fallu, vous aussi, un peu comme Oscar Wilde, jouer avec les hypocrisies et vous en défaire.
Jouer avec les hypocrisies, mais bien que notre régime fût bien plus répressif que celui de l'Angleterre victorienne à laquelle était confronté Wilde, moi je n'ai jamais abouti à la prison, donc son destin à lui était infiniment plus tragique que le mien. J'étais un jeune homme, un étudiant, dans les années 60 d'ailleurs, vous m'avez accordé une décennie de plus. Et je n'attirais pas l'attention de grand monde, mes intérêts restaient purement privés. En fait, j'ai découvert vraiment les formalistes russes en arrivant à Paris.
Mais est-ce que Wilde, de l'autre côté du rideau de fer, était considéré ? Est-ce qu'il était un peu étudié ou alors au contraire pas du tout ?
Oui, oui, il était considéré, il existait, il avait connu son heure de gloire. Tolstoï a polémiqué contre lui dans son célèbre « Qu'est-ce que l'art ?» et on n'avait pas oublié les aphorismes de Wilde. Il était joué sur scène. Non, les classiques avaient bonne presse en Bulgarie et dans le monde des démocraties populaires.
Et puis vous êtes donc arrivé en France et là vous avez élargi au fur et à mesure votre champ d'intérêt à la psychologie, à l'anthropologie, à l'histoire, à tel point que bien des années plus tard vous avez publié chez Robert Laffont, c'était en 2006 exactement, Les aventuriers de l'absolu. Et dans ce livre vous avez choisi d'interroger un projet existentiel.
Exactement, j'avais le sentiment que tout être humain, mais des auteurs comme Wilde en particulier, disposaient d'un projet de vie. Il y avait une forme que prenait leur existence, et cette forme était liée à un projet conscient. Mais j'ai un double commentaire à faire là-dessus. D'une part, je trouve que le roman de Oscar Wilde, comparé même au roman de Dorian Gray, est un roman remarquable.
Vous voulez dire le roman de sa vie ?
Le roman de sa vie, oui, le roman que constitue sa vie.
C'est ce qu'il voulait ?
C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a réussi involontairement, car ce n'était pas du tout la vie qu'il souhaitait pour lui. Mais c'est une vie bouleversante et il a su l'exprimer dans les moindres détails, dans les moindres nuances. Sauf que il l'exprimait comme un personnage et non plus comme un auteur. Et d'autre part, bien sûr, la vie de Wilde a été brisée par la prison. Et c'est une sorte d'énigme, en tout cas de grande question, pour quiconque s'intéresse à son existence et à son œuvre, que de comprendre pourquoi la prison a été cette épreuve insurmontable.
Et nous allons précisément y venir. Mais ce projet existentiel auquel vous vous êtes intéressé dans ce livre, c'est celui qui consiste à mettre sa vie au service de la beauté. Et vous interrogez la trajectoire de Wilde en même temps, ou plutôt à côté, de celle de Rilke et de Marina Tsetaeva. Quelle est la particularité de Wilde parmi ces trois auteurs que vous avez choisis ?
Je dirais que Wilde réalise la forme la plus centrale, classique, de ce projet de vie placé sous le signe de l'esthétisme, placé sous le signe du beau. Parce qu'on la trouve chez d'autres auteurs, mais elle prend des formes plus singulières. Et chez Wilde, il y avait aussi deux formes. L'une qui était un peu superficielle, qu'il reprenait à des essaims, à Huysmans, à l'air du temps, si vous voulez, qui consistait à s'entourer d'objets beaux, de bijoux, de dorures, de beaux tissus, de toutes sortes d'éléments de beauté. Mais très rapidement, il est assez passé outre, au-delà de cette première identification avec le projet de beauté, et c'est plutôt consacré à une seconde forme où la beauté naît de l'épanouissement du soi, où c'est la possibilité pour chacun d'atteindre une forme de plénitude des potentialités dont il dispose.
Et alors, l'esthétisme, c'est une éviction, en l'occurrence, du bien par le beau, écrivez-vous. Est-ce que c'est moralement répréhensible, cette éviction de ce qui est bien par ce qui est, j'ai envie de dire, seulement beau ?
Oh, seulement beau, le beau, c'est une affaire infinie.
Le beau, c'est aussi bien que le bien ?
Oui, parfois. En tous les cas, ça dépend beaucoup du sens précis qu'on met dans ces mots. Vous savez, la célèbre formule « la beauté sauvera le monde » vient de Dostoïevski, ou plutôt du prince Mishkin dans « L'idiot ». Et elle caractérise quelqu'un qui n'est pas du tout un admirateur des jolis tissus, des bouquets de fleurs et des porcelaines de Chine seulement, mais qui sait découvrir cette beauté dans l'existence. Et si l'on conçoit la beauté de cette manière, la beauté englobe tout, c'est une sorte de souverain bien qui... Et le but de toute existence.
Mais Wilde, on lui a reproché, notamment dans la première acception du beau dont vous parlez, de s'intéresser trop aux belles porcelaines bleues, justement, de s'intéresser trop aux objets. Est-ce qu'il n'y a pas un jugement moral aussi sur l'esthète qu'était Oscar
bien
Wilde ?
Bien sûr, bien sûr. Face à la morale officielle, globale, évidemment, il n'est pas suffisant de ne s'intéresser qu'au beau. Mais je pense que chez Wilde, il y a presque immédiatement les deux sens de quête de beauté. Cette beauté un peu superficielle des apparences, mais aussitôt et en même temps, une beauté intérieure.
Cette vie dans le beau dont vous parlez, Tsvetan Todorov, à propos d'Oscar Wilde, on peut la rapprocher peut-être de Dorian Gray lui-même, qui lui-même vit dans la beauté, dans l'esthétisme.
Mais comme vous savez, Wilde, en commentant dans une préface son roman, disait qu'il s'était réparti entre trois personnages. Et pas seulement entre un seul. Dorian Gray, le personnage cette fois-ci, était celui pour qui on le prenait. Lord Henry était celui qu'il aurait voulu être. Et c'est le peintre, le créateur, dans lequel il se croyait trouver son portrait. Donc ces modalités sont déjà suffisamment distinctes. Je ne pense pas que... Lui, Wilde, se réduisit à la seule personnalité de Dorian Gray. Il est présent un peu chez tous, et du reste, Dorian Gray est un roman de peut-être pas d'une impasse, mais en tout cas des embûches semées sur ce chemin.
Donc vous disiez tout à l'heure que dans un premier temps, Wilde s'intéresse à une figure du beau qui est classique et que dans un deuxième temps, il va s'intéresser à une figure du beau qui est quoi plus nietzschéenne peut-être ?
Plus psychologique, oui, la proximité avec Nietzsche que j'indique mais qui saute aux yeux, mais aussi avec un courant de pensée de cette époque, Ibsen... Le théâtre de l'époque véhicule des idées de ce genre. Être soi-même est perçu comme un idéal que l'individu doit poursuivre dans la mesure de ses moyens, bien sûr. Et je crois que de cette manière, il élargit beaucoup la voie du contact avec le beau. Mais il n'est pas sûr que Wilde lui-même ait toujours su obéir à ce programme-là, accomplir ce programme-là. Il le poursuit, mais en même temps, il en poursuit d'autres. Le festoyer avec les panthères, comme il disait, ça ne revenait pas à chercher le beau dans son existence. Il était plutôt sensible à l'atmosphère de danger, de risque qu'il prenait, et ce risque lui a coûté très cher.
C'est l'intensité de la vie qui est belle, vivre intensément.
Ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que l'idée du beau, d'une belle existence, est plus sociable que l'idée d'intensité de la vie. On peut trouver une grande intensité dans le fait d'accomplir un meurtre. Je ne pense pas qu'il illustre bien l'accomplissement de la beauté.
Et pourtant, Dorian Gray est un meurtrier.
Oui, Dorian. Mais justement, Dorian Gray n'est pas une perfection dans le genre. Il est une des voies, une des modalités que peut prendre cette aspiration. Comme Walter Pater l'avait remarqué à l'époque, dans son compte-rendu, Pater, qui était le maître de Wilde depuis Oxford, il avait remarqué que les personnages, et notamment Dorian Gray, couper pas mal de dimensions de l'existence pour la faire entrer dans le moule de sa compréhension de la beauté.
Vous pensez, oui. Allez-y.
Non, je veux dire que il y avait des dimensions autres aussi dans cette pratique.
Et vous pensez, c'est une question un peu naïve et qui mériterait évidemment qu'on y mette beaucoup de guillemets, mais vous pensez qu'il condamne Dorian Gray, Oscar Wilde, en tant que
mais
personne ?
Ce n'est pas aussi simple, il ne le condamne pas, mais il en montre aussi, il ne le met pas non plus, il ne le donne pas non plus un exemple à suivre. Il se répartit entre les trois personnages dans lesquels il se reconnaît. Chacun a sa variante de la beauté, mais aussi un élément tragique.
Au fond, la beauté chez Oscar Wilde, Tsvetan Todorov, elle est inséparable de l'idée d'individualité. La beauté, elle ne peut émerger, selon lui, que par la volonté d'un individu, que par une certaine forme d'individualisme.
Absolument, et ce qui est assez paradoxal, c'est que l'exemple presque le plus pur qu'il veut nous donner de cette individualité, c'est Jésus-Christ, puisqu'il le perçoit comme celui qui a rompu avec toutes les règles sociales et a affirmé une voie pour laquelle il n'avait que sa conviction intérieure. C'était en rupture avec tous, mais c'était en même temps l'accomplissement du socialisme, selon Wilde. Donc nous voyons là qu'il avait des accointances avec des doctrines et des sensibilités assez lointaines à première vue.
Oui, il faisait un petit peu son propre mélange. Je vous propose d'écouter ce que disait à ce sujet son petit-fils Merlin Hollande.
L'identification de Wilde avec Christ, c'est quand même,
exagéré.
Oui, exagéré, c'est peut-être poliment dit. Christ, dont il parle, qui était le premier artiste du monde, pour ainsi dire, l'artiste souffrant pour son art, ça me rend quand même mal à l'aise de voir Wilde se vantant d'être le Christ moderne de l'Angleterre à l'époque. Par contre, il faut dire que j'ai parfois dit qu'il était bel et bien crucifié par la société anglaise, la société victorienne. ce qui est tout à fait vrai. Ils ont pris Wilde en tant que scapegoat, c'est le bouc émissaire, voilà. Parce que il représentait pour eux quelque chose qui était indéfensible. Il était le rebelle, il représentait la décadence, il représentait tout ce qui n'était pas anglais.
Le premier artiste du monde, tel était Jésus-Christ, selon Oscar Wilde.
Oui, c'est une vision très singulière du Christ, bien sûr. Ce n'est qu'en ce sens qu'on peut comprendre ce rapprochement. Je pense que la société anglaise, à la fois détestait Wilde, mais elle ne détestait pas vraiment le contenu de ses actes autant qu'elle le prétendait. C'était son hypocrisie qui se donnait libre cours. Et je dirais que pour moi, oui, non plus, je ne dirais pas que Wilde était le Jésus-Christ moderne, mais plutôt je le vois dans le rôle de Marsyas, le rival malheureux d'Apollon qui finit mal, comme on le sait, en particulier par un célèbre tableau du Titien, car il a subi la punition pour avoir chanté si bien. Donc, a été puni pour son aspiration à la beauté.
Et Wilde avait une très belle voix, comme on le sait, comme on nous l'a rapporté. Vous avez commencé cet entretien tout à l'heure de Stéphane Todorov en posant une question. Je vous ai dit qu'on y répondrait un peu plus tard. Et cette question, c'était: comment se fait-il que la prison ait été fatale à Oscar Wilde? Pourquoi vous posez-vous cette question-là?
C'est une question intéressante. Je trouve que Wilde, comme je le raconte dans le livre, ne pensait pas que la prison lui serait aussi fatale. Il pensait qu'il en sortirait la tête haute et qu'il pourrait continuer d'écrire. Il y avait aussi parmi ses amis plusieurs qui croyaient que cette expérience nouvelle et violente, bien entendu, lui donnerait matière d'un livre encore plus intéressant et plus profond que les précédents.
Un peu comme Truman Capote, qui n'est pas allé en prison, mais qui a fait l'expérience de la prison à travers ses personnages de De sang-froid, finalement, s'en est retrouvé changé et peut-être agrandi. Est-ce que c'était ça l'idée sous-jacente, que finalement, par le choc des contraires, il allait sortir une grande œuvre?
Je pense qu'il y avait aussi l'idée qui avait été illustrée précédemment par un auteur comme Dostoïevski, qui était envoyé au bagne, qui y était resté pendant des années, et qui était entré un écrivain de talent. Il avait publié Les pauvres gens, des textes marquants, mais après sa sortie du bagne, il est devenu le génie que nous connaissons. Et pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi cela n'a pas pu avoir lieu pour Wilde? Pourquoi, à la suite de la prison, il n'a écrit pour l'essentiel que la ballade de la prison de Reading? Vous me demandez la réponse?
S'il vous plaît, oui.
Non, mais je ne suis pas sûr de la connaître, mais j'apporte quelques éléments de précision. Il me semblait que, dans sa propre théorie de lui-même et de sa voix, il y avait certains points aveugles, et notamment la place que jouait l'amour dans ce théâtre, et la forme de l'amour qu'il privilégie, qui est un amour sacrificiel, d'une part, et d'autre part, la place de la renommée, de la reconnaissance publique, que Wilde semblait parfois méprisé ou considéré comme peu de choses, et qui s'est avéré essentiel aussi pour lui, de sorte que une fois condamné publiquement, cela représentait une difficulté quasi insurmontable. Je rappelle aussi le fait qu'il n'a pas cherché à s'exiler à la veille de son arrestation, alors qu'il aurait pu, on le lui proposait, et qu'à la même époque, un Zola qui était menacé par l'arrestation à Paris s'est enfui en Angleterre, fuyant la censure française chez les Anglais, mais pour des affaires politiques et non de mœurs, donc chacun censurait un domaine différent. Et Zola n'a pas souffert d'avoir subi les coups de la censure, bien au contraire, cela a servi sa gloire. Donc, l'énigme reste, on peut la commenter diversement, mais je pense que c'est un nœud central de l'existence de Wilde.
Est-ce que, selon vous, Tsvetan Todorov, quand il sort de prison après y avoir passé 2 ans, il pense encore qu'il va pouvoir écrire de nouveau de grandes œuvres? Est-ce que c'est au fond en sortant qu'il se rend compte qu'il est plus seul dehors encore qu'il n'était à l'intérieur de la prison, ou avait-il déjà finalement perdu sa substance et sa volonté de vie, son envie de vivre en prison?
Il y a quelque chose de brisé en lui dès la prison, et il le dit dans certaines lettres, donc avant la sortie. Mais pour l'essentiel, il croyait encore pendant l'été qui a suivi, pendant son installation sur la côte nord-française, en face de l'Angleterre, il croyait qu'il pouvait y arriver. Ensuite, il a cru que la faute en était au climat nordique, qu'il suffisait d'aller à Naples et d'inviter Bosi avec lui. Bosi, c'était son amant qui l'a entraîné un peu dans cette voie du procès qu'il a perdu.
Mais alors là, c'est une grande naïveté, enfin c'est une suite de grandes naïvetés.
C'est une naïveté, mais c'est un amour. Comme tout De Profundis le raconte, cette longue lettre adressée à Bosi, qui lui explique en long et en large que tout est de sa faute, et qui est en fait une déclaration d'amour. L'amour suit des voies que la raison ne connaît pas trop bien.
Ce qui a changé peut-être aussi en prison de Tsvetan Todorov, c'est le rapport d'Oscar Wilde à l'autobiographie.
Wilde était hostile à toute intervention de l'autobiographie dans le texte. Il disait à Gide, mon cher, n'oubliez jamais que la littérature ne s'écrit pas à la première personne. Il faut pas mélanger les secrets de l'intimité avec le produit de l'imagination. Cependant, là, c'était tout le monde s'attendait de le voir tirer un nouvel essor, précisément de cette expérience. Et comme il le reconnaissait lui-même, il n'était pas fait pour cette littérature-là. Ces étincelantes comédies ne racontent pas sa propre vie. Ce ne sont pas des confessions.
Et pourtant, la ballade de la geôle de Reading, est-ce que ce n'est pas autobiographique d'une certaine façon?
C'est une variation supplémentaire autour du thème « On tue ce que l'on aime », sur lequel Wilde était déjà revenu de nombreuses fois précédemment. Et c'est un poème impressionnant, mais il doit peut-être plus à Coleridge et à la tradition littéraire qu'à l'expérience spécifique de Wilde en prison. Il y a une histoire, il y a le cas particulier qu'elle relate, mais elle est nourrie de traditions littéraires et rhétoriques.
Vous n'avez pas le sentiment qu'il a regretté, et ce sera ma dernière question, à un moment donné, ce poème?
Oh, je ne pense pas que Wilde était un homme à se torturer par des regrets trop profonds.